Nous avions terminé dimanche passé en abordant l'un des domaines dans lequel une tension existe entre le déjà-là et le pas encore du royaume de Dieu. À savoir le domaine intellectuel et plus particulièrement la révélation que Dieu a faite de sa personne. Nous avions vu effectivement que la tension venait du fait qu'il a révélé une partie des choses concernant, mais que cette révélation est encore en grande partie partielle. Autrement dit, il est encore bien plus grand et bien plus profond et bien plus vaste que ce qu'il nous dit de lui-même. J'aimerais aujourd'hui donc que nous attardions sur un autre domaine où nous pouvons rencontrer des tensions, une tension. Et cette tension est ce que je définirais comme le domaine ou la sphère morale. Autrement dit, nous allons parler de la question de la sainteté. Dieu est saint. Ça, je pense que vous le saviez un petit peu. Alors, je sais bien que le terme saint a été fortement défiguré en termes étymologiques par une certaine pratique de l'Église, en particulier au Moyen-Âge. On sait que la sainteté, c'est le fait d'être, dans l'hébreu, c'est le fait d'être mis à part, d'être pris d'un endroit, déplacé dans un autre, pour devenir ou pour être au service de Dieu. C'est ça le fondement du terme saint. Donc il ne faut pas être parfait pour être saint, il faut simplement être désigné par Dieu comme quelqu'un de purifié par sa présence et étant appelé à son service. C'est dans ce sens-là que les chrétiens sont des saints. Alors, je prends toujours cet exemple, parce que pour moi il est exemplatif justement, c'est l'introduction de Paul à sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre. Et on va, en lisant cette lettre, vous vous rendrez compte, si vous avez l'occasion cette semaine, qu'il y a des problèmes énormes, entre autres, moraux dans cette Église. Et pourtant, Paul, dans son introduction, dit « Moi, apôtre Paul, appelé par Jésus-Christ à le servir, aux saints qui sont à Corinthe. » Ils sont en dessous de tout, mais ils sont des saints quand même. Ça, c'est une bonne... C'est pas un appel à rester en dessous de tout. Hein. Mais ça doit nous rassurer quant au fait qu'ici-bas, nous ne serons jamais parfaits. Mais faites un effort quand même. OK? Alors, ce terme saint ou sainteté nous fait, je pense, malgré tout, encore un petit peu peur. Et pourtant, il est parfaitement d'actualité pour ceux et celles d'entre nous qui sont habités par le Saint-Esprit. En effet, la tâche de l'Esprit est de sanctifier. Pour le dire autrement, c'est sa nature. Dès qu'il est à un endroit, il ne peut pas s'empêcher d'irradier et de sanctifier, de purifier tout ce qui est dans son environnement. Il est en nous pour nous purifier dans tous les domaines de notre vie, actions, paroles et pensées, dont nous purifie de tout ce qui n'est pas Dieu et de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ça va jusqu'ici, plus ou moins? Donc, puisqu'il est là, c'est son job, en fait. Seul problème, c'est que ce job, il ne peut pas le faire sans notre aval, sans qu'on apprenne à se laisser faire. Et je vais prendre un premier texte de Paul, que je tire de sa première lettre à l'église de Thessalonique, en Grèce. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, ou à l'immoralité, hein, dans certains autres textes. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que Paul dit en deux versets, c'est de, pour un chrétien, ne pas se soumettre à l'Esprit de Dieu, c'est un non-sens, puisque c'est pour cette raison-là que Dieu lui a donné son Esprit. C'est donc continuer à fonctionner contre nature, contre la nature nouvelle que le Saint-Esprit veut développer dans la vie de l'enfant de Dieu. Donc, son rôle à lui, à l'Esprit-Saint, c'est nous sanctifier. Notre rôle à nous, c'est de participer à cette sanctification. Autrement dit, de ne pas nous y opposer par des actions qui nous, et je le mets entre guillemets, hein, qui nous saliraient plutôt que de nous purifier. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que Paul, il n'a rien inventé. En fait, il tire cet enseignement d'une parole de Jésus que je vous cite en Matthieu 15. Mais ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme, dit Jésus. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc. Parce qu'on est parfois tenté, en effet, d'imputer aux autres leur mauvaise influence sur nous. Et il est possible que certains aient de la mauvaise influence sur nous. Paul le dit d'ailleurs, hein, ce sont les mauvaises influences, les mauvaises fréquentations qui corrompent les bonnes mœurs. Il dit ça dans sa première lettre à Timothée. Mais ce que Jésus remet en avant dans cet enseignement, c'est que c'est à nous à veiller sur notre propre vie. C'est de notre responsabilité de veiller sur notre cœur pour qu'il ne soit pas ou plus souillé. La souillure, le problème potentiel est en nous de par notre nature humaine, nous dit Jésus, et la responsabilité est donc nôtre. Sans compter que le rapport à l'autre peut être un bon indicateur que nous avons potentiellement encore du mal avec certaines réactions et attitudes. Si quelqu'un nous met systématiquement en colère, on peut dire que c'est de sa faute à lui. Mais Jésus dit, oui, ok, il y a des situations qui mettent en colère, mais la gestion de ta colère, c'est ton problème à toi. C'est ta responsabilité à toi. Donc, si nous remettons notre sanctification dans le contexte du royaume, nous pouvons affirmer que le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre en nous pour soumettre notre nature humaine. Cette nature, je le rappelle quand même, qui a hérité du péché et qui ne peut donc pas se soumettre à la voix de Dieu ni à sa volonté. Par elle-même, notre nature humaine est incapable, même si elle le voulait, de se soumettre à ce que Dieu dit. Elle n'est plus capable de faire ça. Je cite Paul en Romains 8. « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. » C'est Paul qui le dit, pas moi. « Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu parce que votre nature va produire des choses ou des fruits qui vont à l'encontre de la pensée de Dieu. » Ça va, ça va jusqu'ici, oui. Vous me dites, hein. Bon, je serais embêté si vous me dites, hein, ça c'est sûr, mais... Ce qui signifie que le Saint-Esprit ne nous a donc pas été donné pour améliorer ou amender, changer notre ancienne nature, mais pour la soumettre. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est pour ça, tout à l'heure, je ferai des petits dessins. Il est en nous pour faire émerger la nouvelle création, la nouvelle créature que nous sommes déjà en Christ. Et avec elle, les signes, les fruits de cette nouvelle création que le Saint-Esprit, par sa présence, commence à produire. Alors, les fruits de l'Esprit, je les cite, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je laisse un peu, voilà, petit silence. Le temps que vous vous disiez, aïe, il y a encore du travail. C'est normal, hein. Je y reviendrai, c'est normal. Nous pouvons donc affirmer que l'Esprit nous transforme d'ores et déjà, progressivement, à l'image du Christ, maintenant. Il vous transforme. Si, si. C'est là qu'il faut de la foi. Certains d'entre nous pourraient néanmoins se demander comment ça marche pratiquement. Cette cohabitation de notre nature humaine qui ne veut rien connaître de Dieu ou rien entendre de Dieu et du Saint-Esprit, parce que les deux sont en nous, d'accord ? Commençons par dire que les deux natures n'ont aucun contact entre elles. L'Esprit Saint et notre ancienne nature, notre nature humaine, n'ont aucun contact. Pourquoi ? Saint-Esprit ne pourrait pas cohabiter en harmonie, en symbiose avec notre nature parce qu'elle est pécheresse et Dieu ne peut pas voir le péché sans le punir. Donc si l'Esprit Saint est en nous, imbriqué, mélangé à notre ancienne nature, nous serions détruits. Vraiment. D'accord ? L'Esprit Saint ne peut pas être en contact avec quoi que ce soit qui ne soit pas pur et parfait. Donc l'Esprit Saint soumet notre nature humaine lorsque notre volonté se soumet à celle de l'Esprit Saint. Il viole personne, il force personne. Donc la clé du rapport entre notre nature et le Saint-Esprit, c'est donc la soumission de notre volonté. Premier dessin, c'est l'homme ou la femme sans Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas l'Esprit Saint. Je vous dessine sa situation. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça, c'est votre nature humaine. Et dans votre nature humaine, il y a votre volonté. Vous n'avez pas Dieu, c'est votre situation. En fait, c'est votre nature humaine, c'est ce qui soumet votre volonté. Vous n'avez pas le choix. Vous faites ce que votre nature humaine vous dit de faire. Et comme elle est tordue et séparée de Dieu, je vous laisse imaginer le résultat. Alors, bien sûr, hein, il y a des non-chrétiens qui sont adorables, qui ne tuent pas leurs voisins. Mais à un moment, ils vont produire des choses qui sont de cette nature-là. Pas bonnes, mauvaises. D'accord ? Le chrétien, il n'est plus là, lui. Le chrétien, voilà ce qui se passe. Il y a deux ensembles. Il y a toujours sa nature humaine. Et il y a le Saint-Esprit. D'accord ? Alors, et là, j'aurais pu faire une intersection, mais c'est pour que vous compreniez pas mal ce que je dis. Hein. Et là, il y a votre volonté. Et toute votre vie durant, le chrétien, il est tiraillé entre les deux. La nature humaine qu'il tire par là et le Saint-Esprit qu'il tire par là. Et à un moment, vous allez devoir décider ce que vous faites. Ça, c'est votre part du boulot. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Votre volonté, elle ne vaut pas grand-chose. Hein. Il faut être tout à fait clair. Il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, que je suis... Oui, la volonté. Au plus, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin du Saint-Esprit, au mieux vous allez vous porter. Au mieux, vous allez vraiment apprendre à le laisser faire. Au plus facile avec le temps, votre volonté va se soumettre à lui. Parce que c'est un piège parfois que de tout axer sur votre volonté en tant que chrétien, parce que là, vous risquez de partir par là. Ça s'appelle l'orgueil. T'as eu le mec, t'as vu, tu te rends compte? Quelle maîtrise. Tu te rends compte comme je suis saint, comme je suis humble. Vous tirez par là. Hein. L'air de rien, c'est de l'anthropologie biblique, hein. C'est une des matières les plus compliquées. Dans la Bible, comment est l'homme devant Dieu? Ok, on va prendre un autre texte. Ah ben voilà, déjà, merci. Galates 5, un chapitre très important hein, sur cette notion de Saint-Esprit et d'ancienne nature. Alors, petite précision encore, comme ça je voudrais tout dit, en résumé. Ne confondez pas, parce que dans les textes bibliques, dans les épîtres, vous risquez de tomber dessus. Ne confondez pas votre nature humaine ou votre ancienne nature, selon les traductions, avec l'homme, l'ancien homme dont Paul parle en Romains. L'ancien homme, c'est ce que votre vie avant votre rencontre avec Dieu. Ça, Paul le dira, cet homme-là, il était crucifié à la croix, il n'existe plus. Ce que vous avez fait avant votre rencontre avec lui, ça ne compte plus, ça n'existe plus pour lui. Vous avez tué quelqu'un, il est toujours mort, vous me direz, mais ça n'existe plus. Mais pardonné de tout ça. Il y a une nouvelle page blanche à commencer avec l'aide du Saint-Esprit, et avec le pardon et la repentance, il efface les pages au fur et à mesure que votre vie se découle, mais ne confondez pas l'ancienne nature qui reste en vous après votre conversion et l'ancien homme qui est détruit. Parce que c'est votre ancienne histoire, sans Dieu. D'accord ? Donc, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre, de votre nature humaine. Au contraire, soyez par amour, serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi de Moïse est accomplie dans cette seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Il parle à des chrétiens, là. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. C'est un combat. L'avantage de l'homme sans Dieu, c'est qu'il n'y a pas de combat. Il est soumis à sa nature. Point. Dès que le Saint-Esprit rentre en vous, vous recevez le Saint-Esprit à la conversion, c'est le bordel. Il y a un combat. Vous vous battez. Il y a un combat intérieur. Mais au moins, il y a deux armées en face, quoi. Il y a au moins un combat, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, le combat consiste en quoi ? Prendre possession de ce que vous êtes. Dominer ce que vous êtes. Vous soumettre. D'accord ? C'est ça, posséder votre volonté. Et Paul a dit à ces chrétiens de Galates, vous ne pouvez pas vivre comme ça, en continuant à vous soumettre à votre seule nature, puisque vous avez reçu le Saint-Esprit. Apprenez à vous soumettre au Saint-Esprit. Que vous ayez des combats, des chutes, c'est normal, puisqu'il y a un combat en vous. Vous n'avez pas gagné toutes les batailles, mais la guerre est gagnée. Hein. Un jour, vous serez parfait, ça ne sera pas de votre faute, ni de la mienne. Hein. Non, mais c'est important de comprendre ça. Donc, quand vous cassez la figure, c'est dommage, mais ça fait partie de ce combat. D'accord ? Donc, cette volonté, que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non, est soit soumise à notre nature humaine, et ça nous poussera à faire et à dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, soit soumise à l'Esprit de Dieu, ce qui nous fera dégager des signes extérieurs de bonne santé spirituelle, donc les fruits de l'Esprit que j'ai cités juste avant. Pas très compliqué de voir si quelqu'un grandit dans sa foi, hein, dans sa relation à Dieu. Hein. S'il engueule tout le monde, on est malbert, quoi. Par exemple. Hein, voilà. Donc, et c'est bien parce que le Christ a fait de nous des hommes libres, capables par amour pour lui de choisir en toute liberté de nous soumettre à son esprit, que nous pouvons dire que nous sommes vraiment libres. Nous avons le choix, ce qui n'était pas le cas avant. Nous sommes donc libres d'obéir au Saint-Esprit ou esclaves de notre nature. C'est les deux choix qu'on a au quotidien, à chaque minute de vos journées, c'est le choix que vous avez. Être esclave de notre nature ou être libre de vous soumettre à l'Esprit de Dieu. Parce que, et ça c'est parfois difficile à comprendre pour beaucoup d'entre nous, parce que là où la soumission à l'Esprit est une liberté réelle et nouvelle, la soumission à notre nature humaine pour un chrétien est un retour à l'esclavage. Alors vous me direz peut-être, pourquoi est-ce un esclavage dans un cas, alors que c'est une soumission, et une liberté dans l'autre? Alors que dans les deux cas, on parle de soumission. Ben c'est très simple, même si ça n'a pas l'air. C'est très simple. Vous êtes libre de vous soumettre à Christ ou non, mais vous n'êtes pas libre de vous soumettre à votre ancienne nature ou non, vous lui êtes soumis, point. Sans le Christ, vous êtes soumis à votre nature. Il n'y a pas de choix, c'est un esclavage. Par contre, vous avez le choix de vous soumettre au Christ. C'est un choix. Il existe, donc vous êtes libre. Vous comprenez la différence? Autrement dit, en termes de libre arbitre, par exemple, on parle beaucoup de libre arbitre, hein, même théologiquement, il n'y en a aucun, en fait, là. Il n'y a aucun libre arbitre, on n'a aucun choix. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils n'ont aucun choix. Alors là-dedans, il y a l'éducation, enfin, il y a plein de trucs, il y a la génétique, enfin, tout ce que vous voulez. Mais c'est la nature pécheresse, voilà. Vous êtes soumis à ça, il n'y a aucun choix. Donc, l'ancienne nature, vous ne la choisissez pas, c'est elle qui vous choisit. Et ça, il y a un texte qui remonte loin qui dit ça, et on passe sur ce texte forcément, c'est qu'un verset, donc, dans la Genèse, hein. Abel, Caïn, vous connaissez un peu l'histoire. Enfin, Caïn a tué son frère, en gros. Hein. C'est juste avant ça. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Enfin, pour le contexte, les deux ont offert une offrande à Dieu. Alors l'un qui est cultivateur, Caïn, qui a offert des légumes, des fruits, et l'autre qui est un éleveur, Abel, qui a aussi proposé. Et le texte juste avant dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et a dit merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et celle de Caïn, le texte dit que c'est un problème de cœur. Vous pouvez donner ce que vous voulez à Dieu. Hein. Si votre cœur n'est pas avec, ça ne vaut rien du tout. Hein. Bon, les Juifs ont connu ça. Ils faisaient tous les sacrifices dans le temple. C'était nickel. Ils suivaient à la lettre la loi de Moïse pour les sacrifices. Et dans Ésaïe, hein, par exemple, Dieu dit « Éloignez de moi vos sacrifices, votre cœur est loin de moi. » Donc, tout ce cinéma, c'est du cinéma parce que votre cœur est loin. Voilà. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air, enfin, pourquoi tu tires une tête pareille, quoi? Il tire la gueule, Caïn, pour le dire vulgairement. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Alors, je ne vais pas en faire des tonnes, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était intéressant. On était à un stade de l'histoire de l'humanité où le péché n'a pas encore atteint son paroxysme en termes de puissance sur la nature humaine. Il y a encore apparemment possibilité de le limiter. Sans l'esprit. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein, et depuis bien longtemps. Mais ce que je voudrais peut-être préciser, c'est que le terme couché à ta porte, dans l'hébreu, le terme couché, c'est spécifique à un animal domestique, type un chien qui est couché. Écoutez, le texte biblique, je sais bien qu'on fait des traductions très très faciles à lire de plus en plus, hein, on enlève tous les subjonctifs. Les mots ont un sens, mes amis, hein, surtout dans le texte biblique. Hein. Ce n'est pas pour rien que l'auteur de la Genèse spécifie ça. Un chien qui est couché à votre porte, c'est qui le maître du chien? C'est l'homme. C'est l'illusion que l'homme a. C'est qui domine son péché. C'est ce que le texte hébreu dit. Mais le chien a envie de vous bouffer, mes amis. Il veut faire de grosses lèches. En fait, vous ne dominez rien du tout. Le chien en question, c'est lui qui vous domine. Mais il est bien dit... C'est votre nature humaine qui vous, entre guillemets, qui vous choisit, si je peux le dire comme ça. Donc nous finissons finalement, dans le processus, par désirer notre ancienne nature autant qu'elle nous désire, et ça devient donc un esclavage dont on ne peut pas se libérer, sauf si Dieu rentre dans votre vie et vous donne son esprit, parce qu'il y a un autre choix qui s'ouvre à vous. Il n'y a pas que ça. C'est un esclavage aussi, en termes de conséquences. La soumission à la nature humaine ou la soumission à l'Esprit Saint a aussi, en termes de conséquences, d'une manière évidente, il y a une différence. Parce qu'à un moment, vous allez vraiment... Un bête exemple, tarte à la crème, une addiction, quelle qu'elle soit. savait pas vouloir. C'est terriblement dur de se sortir de ça. C'est un esclavage, une addiction. Ben, c'est ce que ça produit votre nature. Alors, il y a des addictions que tout le monde connaît, la drogue, etc. OK, les drogues dures, OK. Et on stigmatise les gens qui ont ce genre d'addiction. Mais il y a d'autres addictions, mes amis, plus cachées. Être irritable tout le temps, c'est une addiction. C'est produit par votre nature. Mais ça, on n'en parle. Beaucoup d'églises ont fait semblant. On n'a pas le droit d'aller mal, on n'a pas le droit de tirer la tête, on n'a pas le droit d'être en colère. C'est une erreur. Il faut pouvoir exprimer tout ça, parce qu'on pousse les gens à être hypocrites. Alors le dimanche, ils ont des grands sourires, ils vont à la réunion de prière, et en dehors de ça, ils sont dans un état intérieur catastrophique. Mais ce sont des bons chrétiens, parce qu'ils ont la tête qui va avec, mais pas le cœur, hein, mes amis. Et Jésus, la tête, il s'en tape. Hein. Ce qui compte pour lui, c'est votre cœur. Paf ! Et le mien aussi, en passant. Donc je parlais de conséquences. On va reprendre un texte en Romains 8. Si vous vivez en vous conformant à votre nature humaine, votre nature propre, votre ancienne nature, c'est tout des synonymes, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, donc ce que produit votre ancienne nature, vous vivrez. Il ne parle pas de la mort physique, là, Paul. Hein. Il parle de la mort spirituelle au quotidien. Il écrit à des chrétiens, encore une fois. Hein. Donc on peut être chrétien et ne pas se soumettre à l'esprit et mourir tous les jours. Hein. Parce que, pourquoi ? Parce que nos choix sont soit des choix de vie qui mènent à la vie, soit des choix de mort qui mènent à la mort. Soit le Christ ressuscité est dans vos choix, soit il ne l'est pas. S'il y est, ça mène à la vie, ça mène sur des chemins de résurrection. S'il n'y est pas, ça mène sur des chemins de mort. Et croyez-moi, quand quelqu'un est sur un chemin de mort, on ne peut pas le rater. Hein. Ce qui est difficile, hein, c'est tous les jours. Hein. Les gens, il y en a encore aujourd'hui qui vendent plutôt un évangile de la prospérité, un évangile de la simplicité, que tout va aller. C'est un combat par amour pour le Christ. Et puis, on va réfléchir un moment. Hein. Vous me direz que ça fait une demi-heure que j'essaie de vous faire réfléchir, mais à quel endroit peut bien mener un esclavage? Si ce n'est à la mort, qu'est-ce que peut espérer un esclave, mes amis? On retourne dans l'Antiquité, par exemple, même si on a encore aujourd'hui des esclaves. Qu'est-ce que pouvait bien espérer un esclave? La mort. Voilà. Et où peut bien mener la liberté? À la vie. Personne n'a jamais dit que la liberté, ça faisait pas mal. Hein. Rappelez-vous Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Hein, je l'ai déjà cité ça comme citation. Je trouve ça, cette phrase magnifique et terrible. Si on demandait au peuple à choisir entre la liberté et le bonheur, malheureusement, il choisirait le bonheur. Mais le bonheur est un esclavage, mes amis. Si vous cherchez le bonheur, vous allez perdre Dieu en cours de route. Parce que votre bonheur, c'est lui. Et c'est à lui à construire votre petit bonheur ici-bas. Si vous inversez la donne, ça sera la catastrophe. Donc l'épisode le plus frappant pour moi de cette réalité du cœur humain, qui est encore et toujours capable de choisir l'esclavage, même après avoir connu la liberté en Dieu, est celui du séjour d'Israël au désert. Alors j'ai pris un verset. Donc Israël est sorti d'Égypte. Hein. Donc Dieu a sorti Israël de l'esclavage en Égypte. Voilà, l'histoire vous connaissez plus ou moins. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte ? Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, au contraire, vous nous avez, il parle à Aaron et Moïse, le peuple, hein. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Alors avant de dire, ils sont fous ces juifs quand même. Demandez-vous surtout si vous n'êtes pas pareil. Hein. Un truc qui va mal dans votre vie, qui est-ce qui prend? Dieu. Non? Bien sûr que si. Tu ne me rends pas heureux, quoi. J'ai un problème, mais je ne peux pas avoir de problème dans ma vie. T'es là pour faire en sorte que je n'ai aucun problème. Tu te rends compte, mais de quel droit est-ce que tu te permets de ne pas me rendre complètement heureux et de me demander tout ce que je demande? Les Juifs regrettent l'esclavage. Ils ont Dieu qui est là, Dieu qui a montré qu'il les aimait, Dieu qui les a sortis de l'esclavage, qui a fait des miracles, qui s'est cassé la tête du pharaon. Enfin, je sais pas, la colonne de fumée, vous vous rappelez, la journée, la colonne de feu la nuit, c'est quand même... Le Sinaï qui tremble, la voix de Dieu. Quelques semaines plus tard, putain, on n'a pas à bouffer ici. Hein. Moi, je veux de la viande, quoi. Alors, pour l'anecdote, hein, c'est très relisez, enfin, encore une fois, c'est dans les notes, hein, relisez après, quand Moïse va intercéder auprès du peuple en disant à Dieu, évite de les détruire, parce que bon, ils sont très lourds, je sais bien, hein, je sais, mais bon. Ils sont très lourds, mais sois compatissant. Et Dieu dit à Moïse, je paraphrase, mais c'est l'idée choisie, ce texte est extraordinaire. Il dit, ils veulent de la viande, je vais leur en donner de la viande. Je cite le texte, ça va leur sortir des narines et des oreilles. La viande, ils vont en bouffer de la viande. Si c'est ça qu'ils veulent, hein, ils m'ont au moins, ils veulent de la viande, eh bien ils vont en bouffer de la viande. Ce n'est pas un texte pour les vegans, hein, je vous ai garanti. Mais relisez, c'est intéressant. Et voyez-vous là-dedans, il faut apprendre à se voir hein, quand on lit l'écriture. Hein. Plutôt que de dire, oh mon Dieu, ces juifs sont en dessous de tout. Merci Seigneur, je ne suis pas juif. Mais c'est rien, on est pareil. Hein. Donc ils regrettent l'esclavage. Ils préfèrent en fait être esclaves et posséder ce qui est nécessaire à la satiété de leur nature humaine plutôt qu'être libres et entrer dans la confiance envers Dieu. Et souvent, c'est vrai aussi, les souffrances qui en sont liées, parce que ça a un prix suivre Dieu. Personne n'a jamais dit le contraire, même pas Jésus. Hein. Jésus a dit, vous voulez me suivre, ça va tout vous coûter. Hein. Je ne vais rien vous laisser. C'est radical. Hein. Oh, le gentil petit Jésus, Noël. Oh, le petit gentil Jésus. Oui, oui, non, non. Tu veux me suivre? Calcule, coco, hein, ça va te coûter un max. Hein. Ça, prends ta croix, t'as plus rien. Le seul truc que tu as, c'est moi. Voilà. Ils préféraient, les juifs, nos amis juifs, ils préféraient être esclaves d'un tyran en Égypte plutôt que libres sous la protection de Dieu. Dieu les a libérés de l'esclavage en Égypte et eux, ils regrettent leur chaîne. Je pense que nous démontrons malheureusement encore parfois que nous sommes nostalgiques de l'Égypte. Alors, j'ai parlé, cité tout à l'heure, les fruits de l'esprit, les symptômes de la présence de l'esprit en nous. Alors, il est juste que je vous cite maintenant les mauvais fruits de notre nature humaine, produits par notre nature humaine. La liste n'est malheureusement pas exhaustive. Et elle se situe juste avant le verset 22 de Galates 5, où Paul parle des fruits de l'esprit. Mais d'abord, il dit, voilà les fruits de votre nature humaine. Je cite, hein. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, dit Paul. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle. Alors là-dedans, vous pouvez foutre tout ce que vous voulez. Hein. Il n'y a qu'à choisir, aller sur un site internet. Vous avez... Même quand... Parfois, je suis sur mon PC et j'ai une madame toute nue qui se promène. Et je suis agi. Où est-ce qu'elle sort, celle-là? On vend un yaourt, on met une femme toute nue. C'est comique, hein? Donc, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. Alors on dit, ouais, mais ça va, on ne se couche plus devant les statues. Il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans votre vie, vous êtes idolâtre. Hein. Que ce soit n'importe quoi, hein, votre femme, votre mari, votre boulot, vos gosses, n'importe quoi, ça prend la place de Dieu, la première place, vous êtes idolâtre. J'ai lu un article avant de venir. États-Unis pour l'instant, 35% des millennials, donc ceux qui sont nés avant l'an 2000, entre 85 et l'an 2000, donc les 0-25 ans, 35% des Américains sont à fond dans l'astrologie. À fond dedans, 35%. Mais ils ne veulent pas de Dieu, hein, mais ils veulent de l'astrologie. Donc la magie, avant de rire de ces textes qui ont 2000 ans, on est toujours dedans. Hein. Alors, jusque-là, on dit, oui, moi je ne suis pas trop concerné, attendez. Les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous pouvez choisir. Hein. Et là, ça continue. Hein. Je vous préviens, c'est Paul qui parle, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Ce que dit ce texte, en fait, hein. Et c'est vrai que Paul dit ça d'une autre manière dans bien, bien des endroits, parce que c'est un problème de base hein, de la vie chrétienne, c'est de vivre une vie qui, en tant que chrétien qui ne correspond pas à ce que Jésus attend. C'est aussi bête que ça. Sans que nous en prenions toujours conscience au quotidien, par nos attitudes, nos choix, nos priorités affichées, ce à quoi nous passons notre temps, ce que nous écoutons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons, nous nourrissons soit la vie de l'esprit en nous, on lui donne à manger, soit notre nature propre. On alimente la bête ou l'Esprit Saint. Alors, le choix est nôtre. Alors, j'ai dit, bien sûr, c'est un combat. Mais à un moment, il faut se penser, enfin, pas à un moment, je crois que tous les jours, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a au moins un combat qui fait rage en moi? Entre ce que je veux et ce que Dieu veut. C'est une question qu'il faut se poser régulièrement. En fait, nous pouvons nous inspirer des deux natures de Jésus, en fait, dans son incarnation, pour comprendre pleinement le travail de l'Esprit en nous. On ne peut pas aller la comparaison jusqu'au bout, parce qu'il était parfait, mais c'était quand même intéressant. Jésus, vous le savez, était, on va s'en rappeler à Noël, hein, Jésus était pleinement homme. C'est-à-dire qu'il possédait une véritable nature humaine, mais exempte du péché. Autrement dit, il n'a pas été lié, uni, écoutez bien, à la nature pécheresse de l'homme, à la nature humaine, à une nature humaine. Créée par Dieu, parfaite, forcément, d'accord ? Ou il aurait hérité du péché dans sa nature. Mais il était aussi pleinement Dieu, c'est-à-dire qu'il possédait pleinement la nature divine. Mais, et c'est ça l'important, sa personnalité était celle de Dieu. Dans le poste de direction, là, et là, il y avait Dieu. Il était Dieu. Donc il a été tenté en toutes choses, c'est ce que l'Épître aux Hébreux dit entre autres, sans jamais commettre de péché. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas pécher. Ça ne veut pas dire que dans sa nature humaine, il n'a pas été poussé très loin dans la tentation. Mais il ne pouvait pas. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça qu'il est notre grand prêtre aujourd'hui et qu'il peut prier pour nous parce qu'il est sans péché. Ok ? Je viens à notre nature, à cette dualité en nous. Nous nous possédons aussi, forcément, vous l'aurez remarqué, notre nature humaine, mais celle-ci est entachée par le péché, et nous avons l'Esprit du Christ, dont nous devons développer la personnalité de Jésus en nous soumettant à notre esprit. C'est ça l'objectif, c'est que au fur et à mesure, de plus en plus, notre personnalité devienne celle de Jésus. C'est ça le deal, ce que j'appelle parfois la nouvelle version de nous-mêmes. Que Jésus se développe de plus en plus en nous. Et honnêtement, si vous avez un tant soit peu de connaissances de l'Évangile, vous vous rappelez des scènes de Jésus qui interagit avec son Père par la prière ou avec les autres, on sait quand même, rien qu'avec ça, on sait quand même si on est à côté de ses pompes ou pas. Hein. Honnêtement, vous engueulez quelqu'un, croyez franchement que Jésus engueulait les gens, vous. Enfin, si les pharisiens, ceux qui disaient, qui prétendaient être ce qu'ils n'étaient pas. Là, parfois, ils perçaient nerfs, enfin, entre guillemets. Hein. Mais parce qu'ils faisaient du mal aux autres. Donc, c'est toujours en nous soumettant toujours plus à l'influence bénéfique de l'Esprit, au moyen de la parole de Dieu, que l'attrait de ce que nous offre notre nature humaine diminuera. Je parlais de donner à manger. Votre nature humaine, elle est née avec vous. Hein. Depuis bébé, premier cri, votre nature est là. Hein. Et vous, c'est pas le péché, il s'hérite par reproduction naturelle. Vous venez au monde, c'est ce que Jésus dit, vous venez au monde, vous êtes pécheur. Hein. Suivant le moment où vous convertissez à Dieu, ou que Dieu vous convertit plutôt, il va y avoir un certain nombre d'années qui vont passer, d'apprentissage, de soumission à votre nature. Donc c'est clair que si vous voulez contrebalancer l'influence qu'a votre nature humaine, il va falloir manger la parole de Dieu. Vous avez une pression, une tentation, vous savez que ce n'est pas bien, vous voulez résister, il va falloir qu'il y ait quelque chose en vous qui aide le Saint-Esprit à sortir des dossiers et des fichiers qui va permettre de contrer le truc, hein. C'est pour ça que c'est important de connaître l'Écriture. Hein. Parce que vous ne pourrez pas faire de choix à certains moments. Est-ce que c'est bien, vous ne connaissez pas l'Écriture, vous ne savez pas. Parfois, c'est évident. Est-ce que je tue ce mec ou je le laisse vivre? Ça, c'est vraiment pas compliqué. J'espère que ça, vous savez que ce n'est pas compliqué. Quoi. C'est clair, vous ne tuez personne. Ça, merci. Mais il y a deux trucs plus subtils, hein, qui paraissent légitimes. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que ce chemin, c'est Dieu? Je peux le prendre ou pas? Si vous ne savez rien d'écriture, ça va être compliqué de savoir. Sans compter que parfois, même quand on sait, on peut dire ça, je m'en fous. Hein. La liberté, vous pouvez dire à Dieu, je m'en fous, hein, je fais quand même. Donc je répète ça, c'est important. C'est en nous soumettant toujours plus à l'influence bénéfique de l'Esprit au moyen de la parole de Dieu que l'attrait de ce que nous offre notre nature propre diminuera. Autrement dit, on va prendre de plus en plus de plaisir à faire ce que Dieu veut. Au début, on n'aura pas de plaisir à faire ce que Dieu veut. Ça va être de la maîtrise, un combat sanglant à mort contre notre nature. C'est quelque chose qui m'est revenu en discutant avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. John Piper, il est pensionné maintenant, c'est un pasteur qui écrit beaucoup de livres, un pasteur américain, que j'aime beaucoup, même si je ne suis encore une fois pas d'accord avec tout. Ça ne serait pas moi si j'étais d'accord avec tout. Et à un moment, il fait référence, en parlant un peu de ces sujets, il fait référence, bêtise. Quoi. En fait, il dit un dimanche soir, j'ai enfin une heure pour moi, où je ne vois personne. Je suis à jour à mon agenda, il dit, oh, une heure pour moi. Il dit, je me décide de me mettre dans le fauteuil, dans le salon, en ouvrant un bon bouquin. J'ai à peine ouvert mon livre qu'une de mes filles descend et allume la TV et met un programme musical à fond. Alors là, comme je suis pasteur et je suis un chrétien, il dit, je ferme mon livre et je ne l'engueule pas. Il dit, par contre, à l'intérieur, ce qui se passe, il dit, à l'intérieur de moi, c'est une catastrophe. Ça dit, maintenant, tu vas lui casser sa tête à ta fille. Elle ose te déranger, ta fille. Alors que tu as le droit à avoir cette heure pour toi. Tu fais tellement pour Dieu. Il dit, et il est très violent quand il dit ça, et quand on voit le vieux monsieur, c'est assez surprenant de le voir dégager comme ça. Il dit, je suis allé m'isoler avec Dieu dans mon bureau, et pendant 2 heures, et il mime le geste, je ne le ferai pas parce que je ne tiens pas à vous faire peur, il dit, j'ai massacré ce truc qui était en train de monter en moi. Je l'ai tué, ce truc. Et ça m'a pris 2 heures et demie à tuer cette pensée et ce sentiment qui montait. Il dit, c'est un combat à mort. C'est un combat à mort. Je répète ce que Paul dit aux Galates, l'Esprit Saint a des désirs contraires à ceux de la nature humaine, ils sont opposés entre eux de sorte, et Paul le dit, que vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Donc quand je parle de tension, on y est. Alors il reste notre réalité quotidienne. Malgré la présence en nous du Saint-Esprit, nous ne sommes pas encore entièrement soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous ne l'aimons pas encore de tout notre être, et ni notre prochain comme nous-mêmes. Je vous encourage à dire à Dieu, je t'aime. Parce que si vous attendez d'être parfait pour le faire, ici-bas, vous ne le ferez jamais. Il sait que vous n'êtes pas parfait. Donc la réalité du royaume qui est déjà là, c'est que l'Esprit est en nous et se bat pour qu'on devienne semblable au Christ. Mais de l'autre côté, il n'est pas encore là, donc on n'arrivera pas à la perfection ici-bas. On aura des batailles qu'on perdra. On engueulera de temps en temps notre fille ou notre fils parce qu'il ouvre la télé et qu'on a envie d'un peu de calme. Ça arrivera et on sera malheureux. Mais au moins, on sera malheureux, j'espère, d'avoir explosé, j'espère. On ne va pas légitimiser chaque fois qu'on gueule sur quelqu'un sous prétexte qu'il a mérité l'engueulade. Donc cet état parfait viendra. Amen. Mais ne sera atteint que lors du retour de Jésus et de l'instauration de son royaume, parce qu'on le verra face à face, on le connaîtra comme il nous connaît et on sera, Paul dit ça, en un clin d'œil. Je fais hop, changé. Nous sommes donc effectivement pris en tenaille pour l'instant dans une dialectique douloureuse entre le maintenant et le pas encore, entre la victoire, parfois, et la défaite, entre la consternation devant nos chutes continuelles et la promesse de la libération définitive. Entre, et c'est encore Paul qui le dit le mieux, entre le cri d'angoisse de l'apôtre Paul en Romains 7, qui est aussi celui de tous les chrétiens véritables ayant passé sur cette terre, « Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» C'est Paul qui le dit. Et juste après, « Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu par le Christ notre Seigneur, c'est possible. » C'est ça le combat, c'est ça l'entre-deux. Déjà là, pas encore. Donc d'un côté, nous devons prendre très au sérieux le commandement de Dieu, « Vous serez saints car je suis saint. » L'encouragement de Jésus, va, mais désormais ne pêche plus. Les déclarations de l'apôtre Jean qui affirme écrire pour que ses lecteurs ne pêchent plus et qui leur apprend que quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché, c'est ce que Jean écrit. De l'autre, connaissons la réalité du péché qui habite en nous malgré la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui est une réalité. Mais malgré cette présence, nous désobéissons encore à Dieu. La perfection à laquelle, je termine, par amour pour Dieu, nous aspirons, continue de nous échapper. Alors maintenant, soyons clairs, il faut rejeter, c'est important, rappelez-vous, l'orgueil, il faut rejeter toute idée de perfectionnisme, car corrompu par notre nature, justement, il ne pourra que produire de l'hypocrisie et de l'orgueil. Je vais à toutes les réunions de l'Église, moi. Je prie au culte, moi. J'ai un ministère dans l'Église, moi. Donc je suis mieux que les autres. Vous n'êtes pas là, hein ? Vous êtes là. Enfin, vous, moi. Mais en même temps, nous devons refuser d'accepter une perfection réduite et nous complaire dans la médiocrité. Ce n'est pas parce qu'on ne gagnera pas toutes les batailles qu'il faut se complaire dans la défaite. D'accord ? Alors, pour terminer vraiment, je vais vous lire une citation de l'évêque anglican Henley Moule, comme une moule. Ça, c'est pas de chance. Hein. Henley Moule, ça partait bien pourtant. Donc, il a résumé cette tension dans notre sphère morale, comme je l'ai appelé tout à l'heure. D'abord, concernant les buts, les objectifs que nous devons avoir, voilà ce qu'il écrit. Nous n'ambitionnons rien de moins que de marcher avec Dieu à longueur de journée, de demeurer en permanence en Christ, d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, de nous consacrer à Dieu, de renoncer à tout mal et de pratiquer tout ce qui est bien. Et il poursuit. Nous sommes absolument tenus de rejeter tout secret désir de compromission morale, toute tolérance d'un péché commis par habitude. Nous ne pouvons pas nous priver de marcher journellement, chaque heure, continuellement avec Dieu, en Christ, par la grâce du Saint-Esprit. Puis il évoque les limites, alors pas celles des objectifs, parce que les objectifs, on doit avoir ces objectifs de perfection-là, mais celles des objectifs qu'on atteint réellement. Et par rapport à ça, il ajoute, j'ai la conviction absolue, fondée sur l'expérience de l'Église et sur la parole infaillible, que mystérieusement, il y aura des limites très humiliantes, des échecs lamentables. Jusqu'à la fin, ce sera un pécheur qui marche avec Dieu. En résumé, et je termine vraiment, je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que j'espère être dans l'autre monde. Mais je ne suis pas non plus ce que j'étais autrefois. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu et rien d'autre. Hein. Je suis ce que je suis. Et c'est aussi Paul qui dit ça. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.